Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Alors Alex, cette semaine, ce sont
les florilèges.
Ah voilà, ça consiste en...
Bah, c'est comme un best-of.
Non,
c'est les meilleurs moments. Quoi.
Voilà.
C'est les meilleurs sketchs, c'est les meilleures chansons de Fromet.
Voilà, c'est ça.
Et puis nous, on choisit tous les jours deux des meilleurs invités.
Voilà, alors donc voilà la liste.
Oh là, ok, bah dis donc, bon, il y a beaucoup de bons invités.
Ah oui, mais l'important, c'est de faire de bonnes paires.
Hein. Hervé Villard.
Oula, quoi.
Bah, on peut pas faire un best-of sur l'émission avec Hervé Villard.
Bah, écoute, la programmation, c'est une affaire de négociation.
Ok, bah vas-y, négocie.
Bon, ok, bah moi j'aimerais bien l'émission avec Lola Lafont.
Ah voilà. Non, pas moi.
Ah, quoi? Mais elle était super.
C'est une technique de négociation, tu vois.
Ah, mais ça, j'avais pas compris.
Bah, continue.
Bon, donc moi je voudrais qu'on prenne Lola Lafont.
Je sais pas.
Ah non, mais j'insiste vraiment, Alex. Hein.
Ah, ok, mais à une seule condition.
Ok, bon, laquelle?
Qu'on mette l'émission avec Hervé Villard.
Ok, bon, ben bien joué.
Je suis une bête de Lego,
ouais.
Top là.
Ouais.
Hop, nous.
C'est une illusion qui me. France Inter, entrée dans la start-up, on vous propose une heure en B2B avec deux invités. Sous la pression d'Alex, on démarre donc la semaine avec Hervé Villard, qui est en ce moment en pleine tournée d'adieu. On a découvert un chanteur totalement libertaire au moment d'aborder le sujet sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est une auteure anarchiste qui va lui succéder, Lola Lafont, avec qui on évoquera les ministres catalans qui sont en tôle et la crise du beurre qui est venue s'étaler dans l'actualité au détriment d'autres sujets sociaux. Et dans le sketch, elle interprète la conscience de Nicolas Hulot qui s'est un petit peu alourdi depuis. Là encore, on a failli changer le monde, hein. C'est pas passé loin, Alex. Hein.
Bah, parce qu'on a une belle équipe.
Eh oui, bien
sûr. Oui, et les chroniqueurs ont été sérieux, ils ont travaillé sur l'invité. André Manoukian nous parlera d'Hervé Villard, autant vous dire qu'on est dans la poésie. Clara Dupont-Monod nous parlera du livre de Lola Lafont. Guillaume Meurice, lui, est allé à la rencontre des mamies du 16e pour parler fourrure. Et on terminera avec Frédéric Fromet parce que on a tous en nous quelque chose de glyphosate.
D'accord. Allez, on commence avec Hervé. Alex, calmez-vous. Voilà, calmez-vous.
Content.
En avant la musique.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Hervé Villard est avec nous aujourd'hui. Vous entamez une tournée d'adieu à partir du 28 avril et jusqu'au 16 décembre. Une grande tournée qui passera dans toute la France et notamment aussi à l'Olympia et en Belgique. Et je vous laisse entre les mains d'Alex Vizorek qui est fan.
Entre les mains, entre les larmes.
Ah, oh, c'est beau.
Pourquoi ?
Ce silence.
Non, pourquoi l'adieu, Hervé Villard ?
Ça n'est pas.
Qu'est-ce que vous faites ?
C'est simplement que je n'ai plus du tout l'âge, ni le ventre, ni la respiration pour chanter méditerranéenne et tout ça. Il faudrait que je baisse de ton, d'un ton et tout ça.
Mais ça
donc je suis très orgueilleux, je n'ai pas du tout envie de continuer.
Mais vous pourriez vous écrire des chansons dans votre ton.
Mais c'est ce que je vais faire. Je chanterai Aragon, je chanterai un peu de jazz, ce que j'ai rêvé toujours de faire. Quand j'étais jeune, je me prenais pour Mouloudji. Et à mon âge, je peux commencer à l'être.
Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une tournée d'adieu d'Hervé Villard, le chanteur populaire,
oui, c'est ça,
pour
oui.
les débuts de carrière d'Hervé
c'est
Villard, le chanteur poète.
C'est-à-dire que je ne veux plus monter sur scène avec la fête aux artichauts à Béziers ou la fête des anchois.
On salue les gens de Béziers.
Il fait très chaud l'été. Il y a beaucoup de monde dans les trains, tout ça. Non. Maintenant, je vais prendre des petits endroits très calmes avec quelques chansons gentilles au bord d'un piano.
Et ça vous rend triste ou pas?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas l'air, en tout cas.
Non. Puis je ferai un petit peu de théâtre, j'ai continué à écrire des livres. Mais aller à Prague, ensuite à Santiago du Chili, à la foire au vin, à Saint-Amand-Montrond, et revenir, c'est plus de mon âge.
Une semi-retraite, on va dire ça comme ça.
Oui, on va prendre ça très cool.
Bon, mais ça, c'est après. Alors, moi, je vais venir, le 5, peut-être, et le 6, mais peut-être les deux,
pas
comme
sûr
ça.
Pourquoi vous acceptez les deux?
Bah, écoutez,
je
suis
dans votre belle-mère.
Vous
savez pourquoi je fais ces spectacles?
Bah, dites-moi.
C'est pour mes mamans.
Pour vos mamans.
Parce que j'ai été porté par un public féminin.
Certes.
Qui fut autrefois des mamans. Maintenant, ce sont des grand-mères, voire arrière-grand-mères. Et je ne pouvais pas quitter cette scène-là sans leur chanter une dernière fois méditerranéenne.
Et voilà la vraie. Vous savez qu'elles vont emmener leurs petits-enfants vous voir?
Oui, mais il faudra les laisser à la porte.
Mais donc, c'est pour ça qu'Alex vient d'ailleurs, hein, pour les petites filles des grands-mères.
Non, je m'amuse.
Mais donc, alors, comment on choisit, vu que c'est les deux dernières, comment on fait son tour de chant, comme on dit, quand on est Hervé Villard et qu'on a quand même pas mal de tubes à proposer?
Ben, on prend 40 tubes et puis on les chante les uns derrière les autres, on fait un petit peu d'humour, on dit bonjour ma petite dame, comment ça va? Alors, on a fait sa petite indéfrisable aujourd'hui, on voit son chanteur d'amour. Ça se passe toujours très franchement, très simplement, très populairement, on va dire. C'est très gentil tout ça, les gens chantent avec beaucoup de cœur. Voilà, et c'est très beau tout
donc
ça.
Donc tous les tubes on les aura.
Et ah oui, les 40 sont là.
Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'il y a des amis à vous qui vont passer? Est-ce qu'on va faire une reprise inattendue?
Je ne sais pas. Je ne partage rien.
Rien. Hein, on n'a que Hervé Villa. Il y aura la musique ou pas?
Il y aura des bons musicos, ça ouais. Je peux vous le garantir.
Mais donc pas de une reprise d'une chanson, quelqu'un vous attendrait pas. Vous avez repris Barbara.
Ah si, si. Il y a deux chansons, dont une dont je peux vous donner le titre.
Qui
s'appelle Une vie de ouf.
André Manoukian, vous êtes penché sur notre invité aujourd'hui.
Mais oui, avec beaucoup de plaisir. Les grandes vocations naissent d'un manque. Le jour de la naissance d'Hervé Villard, est-ce qu'un scarabée est mort? Pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que son père l'abandonne et que sa mère est jugée inapte à l'élever. Voilà le bambin à l'orphelinat. Famille d'accueil, fugue. Il aurait pu mal tourner Hervé, mais il se rêve un destin. Je vous ai souvent raconté la définition de la chance par les Grecs. Vous, Hervé, vous n'étiez pas là. Et puis, je l'aime beaucoup, cette définition. Elle en dit beaucoup. Et puis, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Merde, à la fin, Guillaume. Pour les Grecs, la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec deux doigts. Ça veut dire qu'il faut être aux aguets, qu'il faut se tenir prêt, comme l'animal dans la forêt, mais comme tout créateur, finalement. Il y a des gens qui voient passer des touffes de poils sans réagir. Être aux aguets, c'est avoir tous ses sens en éveil pour guetter à la fois le danger, mais aussi pouvoir se saisir de sa proie quand elle va se présenter. Avec des facultés décuplées. Saviez-vous, Clara Dupont-Mono, qu'on s'est rendu compte que le désir a un effet de loupe sur l'objet convoité pour rendre la bestiole plus facile à atteindre? Moi-même, j'ai prêté à certaines chanteuses des qualités qu'elles n'avaient pas forcément. Mais c'est une autre histoire. Hervé Villard, lui, ne va pas laisser passer sa chance. Il a 14 ans, il vit dans la rue dans une bande, ils font des petits coups. Leur quartier, c'est Montmartre, les touristes, une poids facile. Il s'arrête près d'un peintre. En fait, il regarde pas le tableau, il regarde le sandwich. Le peintre, il s'appelle Dado, il voit le manège, il coupe le sandwich en dos, il lui dit « Viens samedi à mon vernissage, tu pourras t'en mettre plein la cloche, mais lave ta chemise, c'est dans les beaux quartiers. » Le samedi, ils se rendent à la galerie, rue Miroménil. Que du beau monde, tous les copains de Guillaume Meurice, les Rothschild, les Noailles, Daniel Cordier, qui fut secrétaire du grand résistant Jean Moulin pendant la guerre. Il paraît qu'il y a des jeunes qui écoutent votre émission, Charline, c'est pour ça que je suis obligé de traduire un petit peu. À 21h, tout le monde s'en va. On demande au bambin où il vit. Il dit la vérité. Je me suis évadé de l'orphelinat. Alors Cordier lui dit, tu vas y retourner et on va t'en faire sortir. Il tient parole. Il devient son tuteur. Il lui fait une éducation dont aucun môme de son âge ne peut rêver puisqu'il va soudain se retrouver à fréquenter Malraux, tante Yvonne, la femme du général.
Avec qui je faisais des gâteaux.
Mendès, France, Aragon, Mitterrand. Un jour, Daniel Cordier lui dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour ton métier? Chez Hervé Villard, le mode survie est toujours enclenché quand on a eu son enfance. Alors il répond, chanteur, comme il aurait dit, avocat ou explorateur. Quand Cordier revient avec un contrat, la maison de 10 lui dit, bon, ok, on va faire un essai. Et bien sûr, on va lui faire une reprise où on lui écrit une chanson sur mesure. Et là, deuxième chance, ou deuxième poil, Hervé Villard, le gamin qui vient de la rue, et il dit « Non, je veux rien de vous, je vais faire moi ». Faut être juste un peu gonflé ou inconscient. Le voilà avec une deadline au-dessus de la tête. On lui dit « T'as 2 mois, mon gars, pour faire ta chanson ». À l'époque, il a une mélodie d'Aznavour dans la tête.
C'est fini, 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 exact. Fini.
Et à la station Franklin Roosevelt, il y a une affiche qui invite les usagers du métro à partir en vacances à...
Capri !
Yes ! Capri à ma gauche, Aznavour dans la tête, et les gars, on est dans Usual Suspect. En fait, Hervé Villard, c'est Kaiser Soze pendant son interrogatoire qui invente tout à base des inscriptions relevées dans le commissariat, Kobayashi sous la tasse de thé, etc. Capri qui n'a jamais mis les pieds, mais il va rendre l'île célèbre dans le monde entier. 11 millions d'exemplaires vendus. Bon, il en peut plus de cette chanson. Alors, on va lui jouer plutôt une autre chanson. Ça s'appelle À cloche-pied. À clocher.
Quelle horreur. C'est de vacherie, ça.
Mais non.
Non, mais là, je me prenais pour un Rolling Stone. Là.
Mais ouais.
Mais c'est ça.
Et ben, c'est ça qui est bon.
Ce que je voulais bouger, oui, c'était. C'est... Ben je voulais ouais. changer de style.
Et allez, on écoute.
Je dois marcher pour mon malheur, à cloche-pied, à cloche-cœur. La route est longue, voilà la pluie, et tout le monde cherche un abri. À cloche-pied, à cloche-cœur. Comme moi, compte les heures, à cloche-pied, à cloche-cœur. J'ai dit 3 heures, oui mais voilà, il est 5 heures, et je suis là. À cloche-pied, à cloche-cœur. J'ai l'air malin avec mes fleurs, car cette fois c'est bien fini. Je reste là, seul sous la pluie. J'aurais perdu en un seul jour ma vieille auto et mon amour.
Hervé Villard, à cloche-pied, à cloche-cœur.
Eh bien, en voilà une surprise.
Il y a une chanson qui n'est pas entendue, ça.
Un demi.
C'est vrai. Alors, c'est ce qu'on a, on a demandé à André, trouve-nous une chanson un peu originale d'Hervé Villard. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-là, alors,
parce
André?
Que je trouve qu'elle a un super son. Aujourd'hui, vous avez plein de groupes qui reviennent et qui sont sur ce son-là. Ce qui se passe, Hervé, c'est qu'aujourd'hui, les gamins, sur Internet, ils choisissent leur époque. Mmh. Et à partir de là, ils retruquent. Donc, je trouve que ce son, il est limite
Pop
moderne.
60's,
on se retrouve avec un groupe de... On a l'impression que c'est un groupe de kids qui est en train de chanter ça. Ça sortirait maintenant, ça ferait la blague. Donc, moi, je vous conseille de reconsidérer votre Olympia, peut-être. peut-être de rajouter cette chanson.
Ça manque pas de fraîcheur.
Voilà.
Et oui, on met ça dans la tournée d'adieu d'Hervé Villard qui démarre à partir du 28 avril jusqu'au 16 décembre en 2018 où il passe notamment par Nantes, Bordeaux, Marseille. Tiens, à Marseille, vous serez le 2 décembre 2018, le 9 à Toulouse, le 16 décembre au Mans. Allez, on va aborder ce premier sujet avec vous. Le magazine The Economist vient d'élire la France pays de l'année 2017. L'Hexagone a, selon le magazine, défier toutes les attentes en élisant comme chef d'État un ex-banquier dépourvu du soutien des partis traditionnels. Et ça s'appelait au roast beef. Attention, la France est de retour.
Qui chante,
on rayonne des
choses pareilles.
Ah bah, c'est une copine à vous peut-être.
Qui ose chanter des choses
C'est Rika Zaraï.
Oh pardon Rika.
Alors, la France retrouve, semble-t-il, aux yeux des Anglais, c'est bon. The Economist, attention, hein, un petit peu de lustre ces derniers temps. Est-ce que vous aussi, vous trouvez, Hervé Villard, que le français reprend du poil de la bête à l'international?
Certainement pas.
Non.
Alors, je parle sérieusement là.
Oui, oui.
Moi, je vais en Argentine il y a 30 ans, j'y vais depuis 40 ans. Mmh. On parlait français, on recevait la Comédie française et les chanteurs français. Aujourd'hui, on ne reçoit plus personne de France.
Culturellement, on rayonne.
La France, le français est paumé. Il n'y a plus que des alliances françaises vides, d'ailleurs. Ça, non. Et puis j'arrête là parce que je ne veux pas vous sombrer.
Mais c'est intéressant. Vous y allez encore de temps en temps en Amérique latine.
J'arrive du Chili et on ne parle plus français à part les anciens comme moi de ma génération, la jeunesse dans les universités à Mexico où je vais régulièrement. On ne parle plus du tout français.
Alors, on a par exemple des ambassadeurs comme Thomas Pesquet, François Gabart, Emmanuel Macron, notre président, mise beaucoup sur l'international, make the planet great again, etc. Il y a comme un hiatus entre l'image que nos autorités veulent donner à l'extérieur et l'image que l'extérieur a d'Emmanuel Macron et de la France et ce qui se passe vraiment dans le pays. Est-ce que vous avez un regard là-dessus?
Ça, c'est comme les chanteurs qui font leur propre légende de leur vivant, vous voyez ce que je veux dire. On peut dire des choses et elles n'existent pas. Pour l'instant, c'est ça. La France.
C'est du flan.
C'est du flan.
Est-ce qu'on peut dire que la France, c'est Dick Rivers?
Non, parce pour que résumer. Lui, il country music, il est totalement. Lui, c'est un chanteur du plan Marshall. Ça n'a rien à voir avec le ça n'a rien à voir avec la France. Non.
C'est ça, la tournée d'adieu, il s'en fout, Hervé.
Voilà,
la tournée s'appelle Plus rien à perdre. Il chante pas, d'ailleurs, pendant une heure et demie.
Dolly Parton, j'aime beaucoup, mais bon, en anglais.
Et voilà, qui remet.
Faut être clair.
Qui remet l'église au milieu du village, comme on dit.
Exactement. Avec un clocher debout. Oui.
Deuxième sujet avec vous, Hervé Villard.
Je vous en prie.
Grâce à Paris Match, nous pouvons entrer dans la ZAD, la zone à défendre. Vous savez, celle face au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est passionnant de voir comment ces zadistes s'organisent pour être autosuffisants, vivre à l'écart de la société de consommation, et aussi comment ils préparent leurs tranchées dans l'attente des forces de l'ordre qui envisagent de les déloger.
Depuis hier soir, le site du futur Cueilleur Park est occupé par des alters darwinistes radicaux. Certains se sont enchaînés aux arbres pour empêcher les travaux. Les zadistes, comme ils se dénomment, vont-ils faire reculer les paléolithiques?
Et voilà, ils nous refichent la paillaille. Tout ça à cause de trois pauvres cocotiers avec des chimpanzés accrochés aux branches.
Non, mais je suis bien d'accord que ces violences ne mèneront à rien de positif. Mais tous ces projets d'aménagement de la préhistoire sont décidés de manière vraiment arbitraire. Pas d'étude de l'impact sur la chaîne alimentaire, pas de consultation des espèces locales.
Et alors, on a pour faire un référendum pour savoir si les dinosaures devaient disparaître.
Oui, c'est une forme de montage. C'est un extrait de Silex in the City, le dessin animé du dessinateur Jules, diffusé sur Arte, et qui transpose donc toute l'actualité au paléolithique. Alors, pour l'instant, ils sont 250 sur la ZAD. Ce principe d'essayer de vivre à l'écart de la société, d'être en autosuffisance alimentaire, etc., c'est une forme de résistance qui fait un peu sens chez vous, une forme
de résistance. J'espère qu'ils seront 100 000.
Oui.
Oui, parce que je pense qu'ils sont pas assez.
Oui.
Il faut faire poids. Et moi, je connais des gens qui ont un joli jardin là-bas, qui vivent là-bas tranquillement. Pour un avion de plus ou de moins sur la Terre, c'est pas la peine d'esquinter la planète entière.
Allez, je viens au spectacle, je viens au concert. Vous venez de gagner.
Ça devient insupportable tout ça. Hein. Moi, je trouve que les quais de Seine soient sans bagnole, je trouve ça très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on y pense aussi, qu'on pense à nous, à vos enfants. Je regardais l'autre jour une femme qui promenait son gamin avec sa poussette, elle poussait l'enfant dans les tuyaux d'échappement. On va vivre comme ça pendant combien de temps? Et les enfants vont vivre combien de temps? C'est ça que je me demande.
Hervé, il y a toute la jeunesse qui est avec vous.
Ça vous a jamais traversé l'idée de faire des chansons engagées du coup,
J'en ai fait. Ouais. Mais enfin, quel bide.
Ah ouais.
J'ai pris un bide, si tu savais. Ah oui, j'ai fait des chansons.
Quel thème alors?
J'ai fait dans les années 70, justement, j'ai fait des chansons sur la zone, sur les banlieues, sur tout ça, sur la pollution, sur tout ça. J'ai fait notamment une chanson qui parlait d'un hommage à Fitzcarraldo, qui était une chanson qui s'appelle « Le bateau sur la montagne ». Ouais, c'est une chanson très écologique qui est née dans les années 72-73.
D'accord. Et c'est peut-être pas la bonne époque ou la bonne moment pour le faire
Le public n'a jamais voulu m'entendre là-dedans.
Sur ces sujets.
Je me voyais beau dans mon petit costume, j'y suis resté, tant pis,
alors
c'est bien.
Alors que vous êtes un zadiste,
Oui, mais que voulez-vous
Un libertaire.
Mais je n'aurai pas ma statue.
Écoute, on n'a qu'à dire que méditerranéenne, c'était syrienne.
Et les pigeons ne viendront pas me fianter sur la figure.
C'est vrai ce que dit Alex, votre méditerranéenne.
Peut-être elle est syrienne, méditerranéenne.
Oui, mais enfin, elle est surtout gitane.
Et
à Martigues, je peux vous dire que ça passe pas tous les jours.
Vous avez une tentation libertaire un peu à un moment, Hervé Villard, parce que c'est ça aussi, c'est le côté libertaire.
Ce n'est pas une tentation, j'ai carrément
été. Vous êtes libertaire.
Je suis un libertin.
Oh là là, Hervé Villard.
Rhabillez-vous, Hervé, rhabillez-vous.
En tout cas, vous disiez Didier, j'espère qu'ils seront 100 000 et sans doute que lorsque les forces de l'ordre vont envisager, vont montrer leur bout de leur nez, eux sont prêts, il y aura du renfort.
Il faudra les foutre à poil, cette force de l'ordre. Il ne faut pas faire ça dans la violence. Il faut se déshabiller, vous en parliez justement.
Oui.
Les foutre à poil, les flics. Vous allez voir, ça va marcher très fort. On va les ridiculiser.
Et Hervé Villard.
Tout ça, pas de papier sur la pelouse, c'est le HLM Blues. Vous connaissez ça?
Wow.
Hein, ça, c'est... C'est un slogan, vous connaissez pas?
Non,
non, je connais pas.
Allez, allez, on passe à autre chose.
Allez,
c'est bien. Cœur avec les doigts, Hervé.
Cœur avec les doigts pour Hervé Villard, c'est clair. Et à côté de vous, il y a ce c'est dangereux islamo-gauchiste.
Ouais, c'est moi.
Qui s'appelle Guillaume Meurice.
Ouais, je vais vous parler fourrure aujourd'hui. Je vais vous parler des animaux qu'on traque à cause de leurs poils. Dédé, c'est de quoi je parle, hein, puisqu'on l'a encore retrouvé ce matin, la patte coincée dans un piège à ours. Alors, des bêtes qu'on traque ou qu'on élève, hein, d'ailleurs, pour les buter ensuite, comme les renards qui sont tués, savez-vous comment? En les électrocutant par l'anus. C'est véridique, on leur met des électrodes dans le fion. Alors on n'est pas là pour parler de la vie privée de certains membres de l'équipe, mais je précise ici qu'il ne s'agit pas de plaisir. Ah, là on les découpe, on en fait des manteaux, des cols de blouson, des écharpes, alors qu'Alex y ressort vivant de la fistinière. Pardon. Toujours est-il qu'on ne fait pas des manteaux en cuir de Visorex, pas encore. Alors je suis allé voir les Françaises et les Français ce matin pour savoir ce qu'ils pensent de ce commerce de la fourrure, et je suis allé voir donc directement des consommateurs. Alors comment on justifie la fourrure?
Les bêtes se tuent entre elles. Les lions, quand il y a une couvée de trois lions, s'ils peuvent en nourrir que deux, ils en tuent du troisième. Donc,
mais est-ce qu'ils font des manteaux après avec les peaux?
Alors là, là, non. Alors là, alors ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème.
Voilà, c'est même le problème qui me préoccupe aujourd'hui, hein, parce que les animaux qui se tuent entre eux, bah ça, je suis au courant. Mais le léopard, s'il a une fourrure de léopard, c'est la sienne. Ah, et ça ne vient pas à l'idée du léopard de buter un autre léopard pour s'en faire un manteau. Même les léopards très cons, il y en a, ils font pas ça, d'accord? Alors on va plutôt aller voir une dame qui porte de la fourrure, n'est-ce pas madame?
Ça existe? Je porte des fourrures, je n'ai pas honte de me promener.
Vous vous en foutez complètement?
Complètement. Mais demandez ça à Brigitte Bardot.
Ah ben ça, elle est contre, elle. Hein.
Mais je promenais pas un maillot de bain, vous savez.
Elle avait peut-être du synthétique.
Ne me racontez pas des bêtises.
Pourquoi vous prenez pas du synthétique?
Je suis allergique au synthétique.
C'est vrai ça, c'est mensonge?
C'est pas un mensonge, c'est la vérité.
Ah mince.
Allez.
Mais là, vous avez du synthétique sur vous, par contre, non?
Qu'est-ce que c'est du synthétique?
Voilà, prends-moi bien pour un con, mamie. C'est ce qu'on appelle une crise d'Alzheimer subite. Hein. Ça lui a pris d'un coup, on dirait Claude Guéant avec la justice. J'ai jamais trafiqué de pognon. D'ailleurs, c'est quoi du pognon? Suivez-nous, Claude, hein, sous les douches de Fleury Mérogis. On va vous montrer comment on tue les renards. D'ailleurs, des animaux, cette dame, est-ce qu'elle en a chez elle?
Un chien et un chat.
Et alors, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse des manteaux en poil de votre chien ou votre chat?
Alors, elle n'allait pas tuer un chat pour faire un vêtement.
Et pourquoi pas?
Et qu'est-ce qu'on fait avec un chat?
On peut peut-être faire des beaux gants en poil de chat.
J'ai eu des mitaines en poil de lapin.
Eh bien alors avec un chat, à mon avis, on peut faire deux paires.
De chat, je ne l'aurais pas porté. Mais du lapin, oui.
Oh bah merde, c'est de la discrimination ça. Il n'y a pas de raison. Allez Félix, allez viens, il y a ton whisky, c'est des croquettes là, hop. Des mitaines, un bonnet, des chaussons en Félix. Parce que Joe le lapin, il n'a rien demandé non plus. Hein. Alors demandons à une autre dame qui porte également des manteaux de fourrure.
Oui, je suis pour, oui, comme disait Pierre Berger, on mange des côtes d'agneau, on tue des petits moutons qui ne nous ont pas fait de mal. Je ne sais pas pourquoi on ne tuerait pas les élevages de visons, par exemple. Pas l'élevage, mais le vison qui est dans l'élevage, les visons.
Qu'est-ce qu'il était bien, ce Pierre Berger? Qu'est-ce qui nous manque?
Moi, je suis consciente de la souffrance animale parce que j'adore les animaux. J'ai eu un chien, j'adore les animaux.
Ah, vous aimez les animaux quand même?
Ah, mais j'en suis folle, j'aime pas les humains, moi j'aime les animaux.
Ah, bah, dis donc, qu'est-ce que ça serait si elle n'aimait pas les animaux? Moi, je préfère qu'elle n'aime pas les humains, hein, parce que ce qu'elle aime, elle en fait des manteaux. Donc, alors, on entra quand même qu'elle doit manger des steaks de vison, hein, certainement comme Pierre Berger, hein, ça fait les deux personnes au monde qui mangent des steaks de vison, peut-être il est mort de ça, Pierrot. Alors, elle aime les animaux, soit, parlons de son chien.
Ma fillette, elle est morte d'une façon étrange, justement, donc elle était très malade, j'avais pas.
Votre fillette, c'est votre chien.
Bah, mon chien, oui, c'est ma fillette, c'est une fille, c'est une petite chienne, je l'appelle ma fillette. Alors, oui, parce qu'elle était comme un être humain pour moi, elle était plus intelligente que moi, c'est pour vous dire.
Bah, à mon avis, elle avait un prix Nobel, hein, la chienne. Parce que moi, quand même, sur un gros niveau, bravo fillette, hein, qu'on a envie de dire. Alors, attendez, parce qu'on dit fillette, mais comment elle s'appelait, la chienne?
Moi, je l'appelais Tiffy, ça veut dire petite fille, mais elle s'appelait Alri Vachienne Royale de la Cour des Lords.
C'était le nom de la chienne.
C'était, elle avait un pédigré. Elle s'appelait Alriva, trait d'union chaîne, c'était le prénom, et le nom de famille royal de la cour des lords.
C'est pas rien quand même.
Ah, oui, son grand-père était champion d'Europe. Ah oui, non, c'est un, elle est d'une bonne lignée. Hein.
Ah bah, je veux bien croire, avec un nom pareil à un grand-père champion d'Europe. Non mais là, attends, c'est pas le clochard de mêler le clochard là, qu'on a à faire. Hein. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la lutte des classes version animaux. Quoi. Il y a vraiment le haut de gamme qu'on chouchoute, qu'on appelle fillette, hein, qui vit dans les beaux quartiers, puis il y a les prolos hein, qui vivent dans des conditions de merde et qu'on fait crever peinard. Voilà. S'il y avait un Karl Marx le chien, d'ailleurs, il serait temps qu'il se réveille. Alors concluons avec cette même dame hein, et sa chienne. Comme elle est morte de vieillesse, pardon, on aurait pu, je dirais, en faire des habits.
Mais non, je.
Ça aurait pu faire un tout petit manteau.
Mais non, bah quoi encore, mon chien en manteau, non mais ça va pas, non. Mon chien en paillé, oui, pour le garder chez moi.
Il est où là alors? Il repose où?
Il a les cendres chez moi, dans un petit pot, dans ma chambre, dans un petit pot, dans les.
Ah, dans votre chambre?
Oui.
Oh là. Et tu les sniffes un petit peu tous les soirs, les cendres. Voilà, on va vous laisser en souhaitant quand même aux 3 millions d'animaux tués par jour en France qui reposent en paix, en espérant qu'il sera bientôt temps de leur foutre.
Sharon Jones and the Dapkins and Soons and Stars the Dapkins, mais il paraît que si je dis Sharon Jones, ça suffit.
J'ai beaucoup.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà les manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Et c'est un autre esprit libre qui vient nous secouer un petit peu, la romancière Lola Lafont, avec elle on aurait pu déclencher le grand soir. Hein.
Et
bah écoutez, jugez-vous-même. Bienvenue Lola Lafont.
Merci.
Vous publiez Merci Mary Patty, votre roman chez Actes Sud. Alors, il s'agit de Patty Hearst, personnage qui a existé, la petite fille de celui qui a d'ailleurs inspiré Citizen Kane, c'est ça, grand mogul des médias, comme on dit. Elle est donc issue d'une famille de très riches et de très puissants. Et en 1974, elle se fait kidnapper par un groupuscule d'extrême-gauche qui s'appelle l'Armée de Libération Symbionnaise, qui a existé aussi, évidemment. Et quand elle se rend compte que son père ne se précipite pas pour payer la rançon et que sa mère porte déjà le deuil, eh bien, Patty épouse la cause de ses ravisseurs contre la violence capitaliste. Et là, on démarre une plongée dans la contre-culture américaine. Je précise que le récit se fait à travers les personnages de Gina Neveva, qui est professeur chargé d'un rapport pour l'avocat de Patty Hearst, et puis sa stagiaire qui s'appelle Violaine. Alors, première question, Patricia Hearst, c'est un personnage, petite fille riche, blanche, qui épouse une forme de guérilla anticapitaliste. Elle a fasciné la jeunesse américaine, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, oui. et vous aussi. Comment vous l'avez rencontrée, cette Patricia?
Moi, je l'ai rencontrée avec la photo. En fait, quand elle s'est convertie à la cause de ses ravisseurs, elle a changé de prénom, parce que c'est ce qui arrive quand on se convertit, que ce soit idéologique ou religieux.
Elle s'appelait Guillemette Morissette, je crois.
Exactement. C'est un peu ça. Mais il y a les légionnaires aussi qui se convertissent.
Très bien. Oui, c'est vrai, ils changent de nom aussi.
Oui. Les religieuses et les légionnaires.
Et donc, elle s'appelle comment?
Elle s'appelait Tanya Hearst. Voilà. Et moi, je suis tombée sur sa photo, et sa photo, elle m'a vraiment frappée, parce qu'elle est. Elle a 19 ans, elle est en treillis, avec une mitraillette, et l'image est hyper à la fois charismatique et choquante. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, et comme vous dites, en fait, elle était hyper dangereuse, parce que si une fille de 19 ans blanche, hyper conservatrice, devenait marxiste, ça laissait imaginer la contagion possible.
Surtout chez les Américains.
Oui, et du coup, effectivement, la défense immédiate, ça a été, elle a subi un lavage de cerveau. Ce qu'on dit toujours quand une fille fait un choix, en général, elle a subi un lavage de cerveau. Parce qu'on m'a demandé, est-ce que ça serait la même histoire si c'était Patrick Hearst? Mais évidemment que non. C'est vraiment la radicalité chez les femmes, elle est toujours expliquée par elle est tombée amoureuse du leader ou elle ne sait pas ce qu'elle dit.
Et donc elle a fasciné une partie de la jeunesse américaine, ce qui est donc inquiété les gens. Alors en vous lisant, on parvient pas à la condamner, même s'il y a c'est sur fond de violence aussi, de rage, etc.
Parce que vous êtes de gauche, ça.
c'est le sentiment qu'on a.
Vous faites le lire à Laurent Wauquiez, ça va aller très vite.
Attendez.
Sans lire le bouquin, il l'a déjà condamné.
C'est un sentiment partagé par Clara Dupont-Mono. Nous avons lu le livre, on en a débattu toutes les deux, et c'est vrai, on parvient pas à la condamner. Il y a comme une part de nous qui épouse le combat malgré tout ça. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais radicalisme? Est-ce qu'il y a un radicalisme qu'on peut un peu excuser? Ça nous rassurerait un peu,
elle
s'il vous plaît.
Elle va utiliser la réponse, donc
c'est ça, voilà. En fait, je pense que ce qui est peut-être ce qui provoque de l'empathie chez elle, c'est que c'est pas vraiment sûr qu'elle se soit convertie à la cause de ses ravisseurs, mais plutôt qu'en fait, elle se débarrasse de son milieu familial et qu'elle est vraiment déterminée à se libérer. Et que comme elle le dit elle-même, en fait, c'est ça qui est frappant à 19 ans dans un message, quand on dit oui, mais elle a subi un lavage de cerveau, elle dit non, mais le lavage de cerveau, c'est mon éducation dans les écoles privées religieuses, c'est le milieu archi-conservateur de mes parents. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire oui, quelle part de nous-mêmes on peut revendiquer comme étant vraiment la nôtre. Et c'est ça, effectivement, qui est attachant chez elle, c'est qu'on se dit, mais effectivement, qu'est-ce qu'on a vraiment choisi? Elle pose cette question-là, au-delà de la radicalité. Puis la radicalité, vous savez, c'est revenir à la racine, toujours, donc je ne sais pas... Ça dépend de quelle racine on parle. Je ne sais pas si les racines de Laurent Wauquiez voulaient en parler.
C'est un homme du terroir, on en parlera tout à l'heure.
C'est une sorte de Che Guevarette. Oui. Alors, ce n'est pas alléchant ce roman? Ça a tout pour nous plaire. Merci Mary Patty. C'est paru chez Actes Sud. Lola Lafont est en notre compagnie. Et on va parler avec vous de ce premier sujet. Il y avait une grève en Catalogne pour protester contre l'incarcération des ministres déchus pour rébellion et sédition. Aujourd'hui, la présidente du Parlement de Catalogne et 5 autres élus sont convoqués devant la Cour suprême de Madrid. Un juge décidera s'ils doivent être incarcérés. La tôle, donc, pour rébellion et sédition. Bienvenue au cœur de l'Europe en 2017.
Le pouvoir exécutif suprême découle d'un mandat reçu des masses.
Tais-toi !
Ah, là, on voit la violence inhérente au système !
Mais tais-toi !
Non ! Venez tous voir la violence inhérente au système ! Au secours, au secours ! On m'opprime présentement !
Oh, fichu paysan !
Ah, il vient de se trahir, vous entendez ? Vous entendez ça ? Voilà de quoi je parle. Vous l'avez vu m'opprimer? Vous l'avez vu, non?
Sacré Graal des Monty Python. Voilà, donc ces ministres déchus sont soupçonnés d'avoir suivi une stratégie concertée en vue de déclarer l'indépendance. Ils sont accusés de rébellion et de sédition. Toutefois, notons que Amnesty International ne les considère pas comme prisonniers d'opinion. Ouh, je vous vois lever les yeux. Ça, je sens que ça va me plaire. Attendez, parce qu'ils sont accusés d'actes pouvant constituer un délit.
Non, j'ai pas levé les yeux.
Ah, j'ai pas levé les yeux, je croyais. Ah, je interprète mes désirs pour des réalités.
l'aurait aimé. Hein.
Non, non, mais alors, bon, c'est vrai que la chose est extrêmement complexe, mais la première question tout à fait générale, est-ce qu'en Europe, aujourd'hui, en 2017, le fait d'avoir des ex-ministres mis sous les verrous, comme ça, pour rébellion, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, juste ou...
Le problème, c'est que c'est plein de sujets à la fois. Mmh. Et
Donc c'est confus, quoi, notre programme. En fait. Vous me dites parce que, il y a un moment, il faut dire les choses.
Il me restait des brèves, hein, si vous préférez.
Le problème est hyper complexe et on doit avouer qu'on mais maîtrise pas tout, c'est sûr.
En fait, c'est ça, c'est que en fait, j'allais vous en parler. Moi, je réclame vraiment le droit de dire « je ne sais pas ».
Oui, bien sûr.
Et je trouve que personne dans les médias dit « en fait, j'en sais rien ».
Nous, on n'en sait rien, c'est pour ça qu'on comptait sur vous.
Mais moi, dans ce cas-là, je dis un truc au pif, non ?
Oui, mais la différence entre vous et le Lala, vous voyez, tout est dit là. Il y en a qui parlent, il y en a qui taisent.
Est-ce qu'il y a un peu le même sentiment que on disait tout à l'heure à la lecture de votre ouvrage, Merci Mary Patty, sur ce sentiment ambigu qu'on pouvait avoir par rapport à Patricia Hearst, c'est-à-dire qui part au combat, puis dont on a ce sentiment ambigu d'être un peu en empathie avec elle. Est-ce que le fait que Madrid ait envoyé les flics et quand même un peu tapé sur la gueule des électeurs, que des ministres soient sous les verrous, bien sûr, il y a des torts des deux côtés, etc. C'est très complexe, mais est-ce qu'il y a aussi ce sentiment un peu ambigu? C'est-à-dire que même si on n'épouse pas la cause, ce qui leur arrive et la façon dont un État agit peut créer une ambiguïté et rend plus complexe encore.
Mais après, je trouve que c'est l'occasion, justement, moi, quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les violences de la police sur les manifestants, évidemment que c'est l'horreur, mais je me suis dit, vous vous souvenez des manifestations contre la loi travail? Vous vous souvenez des violences de la police française contre les manifestants, contre les lycéens? Qu'est-ce qu'il est devenu le jeune homme qui a eu qui a été éborgné? Qu'est-ce qu'il est devenu celui qui a pris, je dis celui, mais je pense que c'est ceux, etc. Et ceux qui avaient pris des grenades de désencerclement dans le dos et qui étaient brûlés. Et je me dis c'est fou parce que soit on a oublié, soit on s'est pas assez mobilisé contre ça. D'ailleurs c'est clair. Donc oui, ça ouvre ça comme sujet, les violences policières en général, et puis la prison. Parce que j'espère que c'est pas maintenant qu'on se rend compte que la prison, il y a des gens en prison et que leurs conditions sont monstrueuses, enfin les conditions de détention sont monstrueuses. Ouais. Moi, je trouve que ça devrait ouvrir sur ces sujets-là, ministre ou pas.
Eh ben, c'est fait par votre voix aussi dans cette émission, c'est vrai. Je relève aussi pour clore ce sujet un propos tout à fait général, mais que j'aimais beaucoup dans votre livre. Violaine, donc la stagiaire qui aide Jean Neveva, c'est ça, sur le rapport concernant Patricia Hearst, qui parle de politique. Elle dit à propos de Violaine, c'est celle pour qui la politique est un combat d'homme en costume gris qui prend fin lorsqu'on en élit un à la place d'un autre, Giscard, au mois de mai 74. J'ai kiffé, donc je vous fais partager. C'est dans Merci Mary Patty, publié chez Actes Sud, Lola Lafont et Clara Dupont-Monod, qui s'est penchée sur votre roman.
Eh bien oui, parce que c'est notre actualité, Lola Lafont, votre livre. Donc,
tranquille.
Ouais, Merci Mary Patty. Alors, on l'a dit pour les auditeurs qui n'écouteraient que ma chronique, et ils sont nombreux, qui prennent l'émission à ce stade. Vous êtes parti
là, ils font l'amour sur votre
livre. Oui, absolument, mais oui, mais je reçois régulièrement des mails. Vous êtes parti d'un fait divers, donc réel, en 1974. Patricia Hearst, jeune fille américaine très riche, qui est enlevée par un groupuscule d'extrême gauche, et ça devait arriver, mais elle refuse d'en sortir, et mieux, elle en épouse la cause et la violence inhérente à cette cause. Donc on passe de la jeune fille sage et victime à une guerrière debout, une mitraillette à la main, dans le hall d'une banque, qui hurle, je vous cite, « La première personne qui bouge, je lui fais sauter sa putain de cervelle », ce qui a le mérite d'être clair aussi. Alors en tant que romancière, Lola Lafont, vous aviez plusieurs possibilités. La première, c'est la plus évidente, c'est vous vous glissez dans la tête de Patricia Hearst, parce que quand on y réfléchit, c'est quand même l'histoire d'un retournement de veste spectaculaire. Et dans la foulée d'ailleurs, vous auriez certainement bénéficié de la préface de Raquel Garrido. Donc en plus, ça aurait été le pompon. Mais vous avez choisi une autre voie. Vous avez choisi de prendre cet événement-là comme un trampoline narratif. C'est-à-dire qu'en fait, votre texte rebondit contre ce fait divers pour accéder à des espaces qui se situent bien au-dessus de la toile des événements. C'est ce qu'a fait finalement Albert Camus avec La Peste, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout un roman sur la maladie. En fait, Albert Camus s'appuie sur la maladie pour observer ensuite la réaction des hommes face à un fléau. Donc La Peste est un roman trampoline. On le sait assez peu, mais... Et alors, pour effectuer cette gymnastique narrative, il vous faut un outil. Et cet outil, c'est un personnage que vous faites surgir, qui s'appelle Jean Nebeva, dont Charline a dit un petit mot tout à l'heure. C'est une professeure très intelligente, très peu aimable, qui est assistée par une jeune fille qui s'appelle Violaine. Et ces deux femmes ont été mandatées par le cabinet d'avocats en vue du procès de Patricia Hearst. Alors, ce que vous faites du coup durant tout le livre, c'est que vous nous mettez, nous lecteurs, avec Jean et Violaine, et pas avec Patricia. Par exemple... À un moment, Jean Nebeva pose sous le nez de Violaine les dizaines de couvertures de journaux consacrées à Patricia Hearst. En une du Time du 6 février 1974, photo de Patricia, grand sourire, petit polo rayé, ciel bleu, titre « L'innocence brisée ». Elle vient de se faire enlever. Et puis, deux mois plus tard, le 4 avril, et tout ça est véridique, une du Time, photo de Patricia debout, les jambes écartées, avec un fusil M16 à la main, ciel rouge, et puis drapeau du groupuscule d'extrême gauche, titre « Guilty », coupable. Au lieu de sonder ce qui a pu se passer dans la tête de Patricia pour passer d'un polo rayé à un fusil M16, vous vous appuyez en fait sur ces images pour surplomber la rancœur d'une élite américaine. Je vous cite, « Des adultes furieux de s'être tenus deux mois durant au chevet de celle qu'ils ont tant aimé plaindre, amers d'avoir été floués, ils tonnent, oui, l'Amérique est contaminée. » Parce que, en effet, la jeunesse, à ce moment-là de l'histoire de l'Amérique, commence à gronder contre la guerre du Vietnam. Elle adore Patty. On met des banderoles, il y a des colloques organisés un peu sauvages sur les campus, et Patty donc, est celle qui a choisi donc, la rébellion. Et là aussi, vous faites la même mécanique. Pardon, vous partez des enregistrements transmis par Patricia, enregistrements, arrêtez-moi si je me trompe, mais ils sont réels.
Oui, oui.
Bon, elle dit, papa, tu n'es qu'un menteur, un vendu, mais vas-y, dis-leur aux pauvres et aux opprimés de ce pays ce que le gouvernement s'apprête à faire. Plutôt que de sonder le lien entre père et fille, et il y aurait de quoi dire, eh bien vous grimpez d'un cran, toujours cette histoire de trampoline, vous grimpez d'un cran et vous vous arrêtez sur Violaine, qui, elle, après sa journée de boulot auprès du prof, rentre chez elle, à table, pour la première fois, elle s'assied, elle regarde ses parents et elle les regarde différemment. Elle les entend parler de la journée, des vacances, des études, et pour la première fois, Violaine se demande si elle n'est pas beaucoup plus enfermée, séquestrée que Patricia Hearst. Donc quand on referme votre roman, au fond de Patricia Hearst, on a eu... entre guillemets, que la matière brute. Les faits, les enregistrements, les photos, les unes de journaux. On a fait un autre voyage, en fait. On a fait un voyage à travers la contre-culture américaine, à travers l'éveil de conscience d'une petite assistante, à travers la colère d'une prof qui voudrait changer le monde. En fait, tout ce que l'affaire Patricia Hearst a touché et transformé, plutôt que l'affaire elle-même. Donc vous voilà championne de trampoline. Je vous redonne les références de votre livre. Merci Mary Patty de Lola Lafont, est paru chez Actes Sud.
Merci Clara Dupont-Monod. Oui, c'est vrai qu'il y a un retournement spectaculaire. Vous disiez du petit Paul Oreiller à la Che Guevara, on disait.
En deux mois seulement, j'avais oublié. Ouais, c'est super court quand même.
Lola Lafont, vous êtes avec nous jusqu'à 18h, on en profite. Et voici ce troisième sujet, le journal allemand Der Spiegel écrit « Panique au pays du beurre ». Et là, c'est le Courrier international qui a cafeté, qui a relayé le papier, évidemment. Le journaliste allemand raconte la crise d'angoisse qui s'est emparée des Français confrontés à la pénurie de beurre, élément essentiel de la gastronomie française.
Alors, vous avez vu Julie ?
Mais oui, j'ai vu, elle réclame du beurre en motte, voilà.
Du beurre en motte ?
Mais oui, il faut absolument lui trouver ça. Vous savez, ces beurres de campagne,
mais
là.
Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est folle ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle pleure, elle s'arrêtera, mais pour l'instant, il faut lui trouver du beurre en motte.
Bernard,
rien à faire.
Bernard. Vous allez nous trouver du beurre en motte. Du beurre en motte. Bon, ben moi, je vais m'en occuper, du beurre en motte. Ah, Joël, venez, vous tombez bien, vous allez m'aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Mais c'est pas du beurre en motte, ce truc-là.
Mais du beurre en motte, il n'y en a pas dans tout le département des Alpes-Maritimes. Alors on va prendre ces quatre paquets, on va les malaxer, on va les mettre dans de la gaz, et puis ça aura l'air d'être du beurre en motte.
C'est la version comique d'un dernier tango à Paris.
Oh là là, non mais...
C'est véritablement là un extrait de La Nuit américaine de François Truffaut, 73. Il était question de beurre en motte. Lorsque nous avons évoqué ce sujet dans le bureau, Lola Lafont, en compagnie de Clara Dupont-Monod, Clara a eu cette saillie, je ne résiste pas à vous faire partager. Oh là là, j'aimerais les voir sans saucisse, eux, les Allemands.
Journée sans Wurst, j'aimerais voir leur tête. Car c'est effectivement Der Spiegel qui note que les Français paniquent à l'idée qu'il n'y ait plus de beurre.
Enfin... On l'appelle Mimille hein, dans la dans
mais
la
non, décimée. Mais enfin, s'il y a pénurie de thé, imaginez au Brésil, tout le monde s'en fout. En Angleterre, c'est un séisme. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à nous embêter là ? C'est important le beurre.
Voilà. La fond. Vous, est-ce que vous avez
allez, déjà. Allez, Jacquier, serre-nous un jaune.
Est-ce que vous avez déjà eu peur, panique de manquer de quelque chose ? Ou aujourd'hui encore, il y a des...
Non, non. Alors, peut-être vous allez m'en vouloir, parce que je vais faire un pas de côté.
On vous en voudra pas du tout.
Mais du coup, j'ai regardé le sujet et je me suis dit, moi, le truc que j'ai pensé, je me suis dit, voilà, puisqu'on parle de prise d'otage hein, dans Merci Marie Patty, voilà la façon dont l'actualité est prise en otage par un truc dont on n'a quand même pas grand-chose à faire et dont ça occulte complètement des trucs hyper importants. Dont on parle jamais. Et j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé aux femmes de ménage en grève des hôtels Holiday Inn, qui poursuivent une grève parce qu'elles sont payées à la chambre, parce qu'elles sont payées 1,50€. Voilà. Et aussi, dans le même truc, c'est qu'on parle d'écologie. Et le métier de femme de ménage ou d'homme de ménage, c'est les gens les plus exposés au risque, avec les produits qui respirent. Et je lisais, alors je m'excuse, c'est pas du tout l'histoire du beurre, mais je me disais, c'est Zola, en fait. Parce que pour se protéger des solvants, ils devraient mettre un masque et des gants. Mais simplement, ils vont pas assez vite pour ce qu'on leur demande, pour faire le ménage, et pour les chambres qu'on leur demande. Eh ben, ils vont crever d'un cancer des poumons, quoi.
Lola,
alors je sais que j'ai vraiment, vraiment pas mis une bonne ambiance.
Ah non, 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 au contraire. Pas drôle du justement, tout. J'allais vous demander, est-ce que vous voulez pas prendre la rédaction en chef de l'émission? Parce que c'est le genre de sujet qu'on adore.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je me
mais
suis
oui,
dit.
C'est vrai.
Bah, voilà.
Mais vous faites bien, vous êtes la première comme ça à dire tiens, je prends. Mais non, mais c'est vrai, à dire ce sujet-là, on s'en fiche.
Et
je
en plus,
prends
elle rentre chez
un...
elle. Ouais. Et il n'y a pas de beurre. Voilà, comme ça, on a quand même pas du beurre.
C'est une super bonne transition. C'est
vraiment bon. Lola Lafont. Sinon, vous êtes musicienne, romancière et la comédienne tout de suite.
Ah mais oui, parce qu'en fin d'émission, on propose un sketch à raconter. Et vous saviez très bien, vous saviez très bien et vous allez être la conscience de Nicolas Hulot. Oui. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est chaud, c'est chaud. Il est en rendez-vous avec Emmanuel Macron, qui va lui dire qu'il est plutôt content du taf. André Manoukian est Emmanuel Macron, Guillaume Meurice est Nicolas Hulot.
Bravo Nicolas, ton annonce sur le nucléaire, c'est de la bombe.
Vraiment, monsieur le président, de la bombe ?
Fais gaffe, Nico. Tu es en train d'avaler des anacondas.
Bah, on dit pas des couleuvres ?
Ben non, au point où tu en es, ce sont des gros serpents de 10 mètres.
Dis donc, Nicolas, tu penses quoi de la circulation à Paris ?
Il faut agir, monsieur le président.
Vas-y, Nico. Impose la trottinette pour tous en libre service, la trotte libre.
Qu'est-ce que tu dirais d'interdire les vélos et les trottinettes ?
Je suis pas sûr.
Quoi ? Rentre-lui dedans, fais-lui couler son maquillage à 30 000 boules.
Vous trouvez qu'il y a trop de cyclistes et de trottinettistes, monsieur le président ?
Je rêve ou t'es en train de t'écraser ?
Non mais attends, même en Delta Plate, je me suis jamais écrasé, ça.
Je me disais simplement que si on pouvait emmerder un peu plus Anne Hidalgo...
Oui, bah, comme vous voudrez, monsieur le président.
Nicolas, tu penses un peu aux ours polaires ?
Oui, bah tu sais, les ours polaires à Paris, on n'en voit pas beaucoup. Hein.
Ça te plaît ton poste de ministre de la transition écologique ?
Oui, je suis très fier de tenir bon, monsieur le président.
Tu parles. T'es plutôt ministre de la trahison écologique, oui.
On en est où, Nicolas, du dossier glyphosate ?
Glyphosate, on tient bon, on reste ferme, quoi.
Bien parlé, interdiction immédiate.
Pas plus de 3 ans de renouvellement.
Quoi ? Dans Ushuaïa, ça s'appellerait séquence d'émission ?
Que dirais-tu de 4 ans, plutôt ?
Nicolas, je t'en supplie, ne cède pas à la pensée complexe.
Ça va. 4 ans, bon, après tout, ça fait qu'un an supplémentaire, c'est... Oui.
Quelle horreur ! Tu réalises que je suis en train de regretter de n'être pas plutôt la petite voix de Jean-Vincent Placé, c'est qui ?
Non, bah, je t'expliquerai petite voix, mais c'est pire que tout.
Pas plus que tes renoncements.
Et si on interdisait tous les magasins bio ?
Vous n'aimez pas le quinoa, monsieur le président ?
Un bon cordon bleu dans une cantine, il n'y a que ça de vrai.
Oh, vous avez raison, les verts sont des cons.
Franchement, Nicolas, tu vas tenir comme ça encore longtemps ?
Oui, et je vais te dire pourquoi la petite voix. Parce que je suis comme un diesel.
Toute cette semaine, il va entrer dans ce studio à la fin de l'émission, Alex.
Exactement, Frédéric Fromet. Et il a rendu hommage à Johnny, mais avant que Johnny nous quitte. Et je ne peux pas exclure que c'est un petit peu quelque chose qui l'a poussé dans les ronces. Frédéric Fromet, Tennessee, glyphosate.
C'est le roundup attitude. J'ai pris tant de glyphosate que je titube. C'est le Roundup attitude. C'est plus fort que la coke ou que
concert en tube. Tu round-up partout dans ta vie, dans les champs et en toi aussi. Oui, même dans ton pipi, c'est le round-up attitude. On a tous en nous quelque chose dans nos vessies, comme du poison qui donne des maladies. L'exil fiscal n'empêche pas la tumeur qui nous oblige à aller au docteur. Quelque chose dans nos vessies. On est plein de glyphosate, merci qui? Dadou Roundup, Dadou Roundup. Merci Monsanto, merci les lobbies. Dadou Roundup, Dadou Roundup. Partout dans les sols et dans l'eau, en nous on trouve du glypho. Après il faut pas s'étonner qu'on a bobo. Dadou Roundup, Dadou Roundup. Que je gerbe, 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 que je gerbe. Quand tu viens désherber avec du Roundup le blé, attention pas le blé que je gagne, mais celui de la campagne. Je serais doublement méfiant si je m'appelais Didier Deschamps. Et comment espérer bien faire quand le ministre s'appelle Travers? Que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe. Que je gerbe, que je gerbe, que je gerbe. Allumez l'affreux, allumez l'affreux. Monsanto et tous les autres gros dégueux. Allumez l'affreux, allumez l'affreux.
Non, Alex, cette émission a filé à la vitesse de Balkany devant la justice.
Beaucoup trop vite.
Oui, pour demain, on a envoyé un Bristol à Ghislaine Tormoz, qui est ouvrière à l'usine PSA de Poissy. Et ensuite, on se replongera au 19e siècle avec l'historien Pierre Saint-Garavelou.
Eh ben, je vais venir.
J'espère bien. À demain.